Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. Depuis plus de 30 ans, il est bien difficile de comprendre une grande partie des conflits qui marquent les relations internationales sans s'intéresser à l'islam, deuxième religion du monde avec près de 1,8 milliard de fidèles, recouvrant des mondes extrêmement complexes. Car on a trop souvent l'habitude de confondre le monde arabe et le monde musulman, mais le monde musulman va bien au-delà du monde arabe. Tout cela pour dire que le sujet est extrêmement complexe. Et il suffit de considérer l'affrontement entre les États-Unis, Israël et l'Iran et son retentissement pour être persuadé de l'importance de cet univers musulman dans le cadre des relations internationales contemporaines. Aussi, c'est dans cet esprit qui anime le Libre Journal de la Défense, qui est de contribuer à la réflexion à propos des conflits passés ou en cours, et puis de leur compréhension. Eh bien, c'est animé de cet esprit-là que j'ai le plaisir, une fois de plus, de recevoir David Cumin. Bonjour, Monsieur Cumin.
Bonjour, merci de votre invitation, je suis toujours très heureux et très honoré.
Que j'ai reçu plusieurs fois, alors je rappelle à nos auditeurs que vous enseignez à Lyon 3 Jean Moulin, que vous intervenez dans un certain nombre d'organismes où l'on traite du droit et de la géopolitique, et que vous êtes auteur de très nombreux ouvrages, dont aujourd'hui celui qui nous intéresse particulièrement, publié en 2026 aux éditions Guillem, en deux tomes, « Guerre et paix en islam, géopolitique et polémologie des régions et des pays du monde musulman, 20e, 21e siècle ». Et donc, cher David Cumin, nous allons nous entretenir pendant 1h30 de ce livre, en essayant d'articuler notre propos autour de trois grands thèmes. D'une part, l'approche géographique de ce monde musulman, parce que rien ne peut se comprendre sans la géographie, bien entendu. Et puis, compte tenu de l'interaction, de l'imbrication du religieux et du politique dans cette confession, eh bien, nous évoquerons la vision religieuse des relations internationales par l'islam. Et enfin, dans une troisième partie, nous traiterons des grands conflits contemporains qui parcourent à l'interne ce monde ou qui, ces conflits qui trouvent dans l'islam une partie de leur protagonisme. Voilà, alors dans un premier temps, mon cher David Cumin, voyons donc cette approche géographique du monde musulman où, vous nous le rappelez, à la différence du monde ex-chrétien, la prégnance du confessionnel est extrêmement forte et vous y voyez là la grande ligne de partage entre l'Occident sécularisé et puis ce monde d'1,8 milliard de fidèles dont la vie dans son entièreté, si l'on peut dire, selon les régions différemment, mais est quand même marquée par la transcendance et par le religieux. Je crois que c'est une première clé de compréhension des conflits contemporains que cette ligne de partage majeure.
Oui, en effet. Alors, je suis très heureux de pouvoir discuter avec vous de ces choses-là. Effectivement, nous sommes dans le cadre de votre émission sur les questions de défense. Alors, le point de départ chez moi, c'est que je travaille sur la guerre et la paix. Et j'ai voulu aborder le monde musulman et je me suis dit qu'on ne pouvait pas traiter de la guerre et de la paix de nos jours dans le monde musulman et à côté du monde musulman sans faire appel au temps long, sans revenir à la religion musulmane et sans revenir à la géographie musulmane. Alors, c'est ce que j'ai développé dans mon ouvrage, deux tomes. Le premier tome, l'approche globale. Le deuxième tome, l'approche aréale. Dans le deuxième tome, je traite des régions du monde musulman. Et dans le premier, je traite de la religion musulmane, du monde musulman tout entier et du monde arabe tout entier. Alors, voilà, un premier point, effectivement, on parle de monde musulman. On ne parle pas, très peu, dans les relations internationales, de monde chrétien, de monde hindou, de monde bouddhiste, ou même de monde juif. Pourtant, bien sûr, ces mondes existent, ces grandes religions existent. Mais, quelque part, vu la sécularisation de l'Occident et donc de notre appréhension des relations internationales, parler de monde musulman montre à quel point ce monde-là, comment dirais-je, jure par rapport à nos critères. Le monde musulman, l'expression montre bien que dans ce monde-là, le religieux prime, continue de primer. Ce monde-là n'est pas sécularisé, ou partiellement. Et cette sécularisation partielle, elle est elle-même objet de conflit au sein du monde musulman. Alors ce monde musulman, vous avez raison de le rappeler, on le confond trop souvent avec monde arabe, c'est très réducteur. Il y a quelques arabes qui ne sont pas musulmans, qui sont chrétiens. Il y a beaucoup de musulmans qui ne sont pas arabes. La grande majorité.
Et même une majorité.
La grande majorité. En gros, si vous voulez comprendre au plan géographique le monde musulman, c'est un monde, on va dire, double. Il y a ce qu'on appelle l'islam des tribus à l'ouest de l'Afghanistan et l'islam des moussons à l'est de l'Afghanistan. Moussons faisant allusion, bien sûr, au régime climatique, les pays pluvieux et les pays où il y a des rivières. Alors, nous avons donc le monde des tribus à l'ouest. Alors, lui-même, ce monde-là se divise en deux. Il y a le monde des tribus des plaines et des plateaux à hiver chaud. C'est le monde du dromadaire. Voilà. En gros, c'est le monde arabe ou arabisé. Et puis, il y a le monde des steppes et des montagnes à hiver froid, où règne le chameau. Et là, c'est plutôt le monde turc ou turcisé plus l'Iran. Voilà. En gros. Et dans ce monde-là, effectivement, la structure première était et est encore parfois tribale. Sauf l'Égypte, la vallée du Nil, l'Égypte n'est pas tribale. Mais autrement, de l'Afrique de l'Ouest à l'Asie centrale, nous avons le monde des tribus. Et c'est sur ce monde des tribus, aride, que s'est installé l'islam. Et voilà, c'est le premier islam, c'est celui auquel on pense en Occident, on pense, avant 1918, on pensait aux Turcs, vu l'importance de l'Empire ottoman. Depuis les années 1920, on pense surtout aux Arabes. Mais ce n'est qu'une petite, enfin c'est la grosse moitié géographique du monde musulman, l'Ouest, l'Afghanistan, c'est une toute petite moitié démographique.
Et c'est vrai qu'on oublie souvent que le premier pays musulman, du point de vue démographique, c'est l'Indonésie. Et donc c'est le monde des moussons qui tranche vraiment avec le monde du désert dans lequel est né l'islam.
Tout à fait. L'islam des moussons, c'est cela correspond en gros, si vous voulez, l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est insulaire et archipélagique. En gros, c'est Pakistan, Inde, Bangladesh, Malaisie, Indonésie et puis Mindanao. Alors, c'est un monde tout à fait différent. C'est un monde, le monde des moussons, c'est pas le monde des tribus, c'est le monde des sociétés hydrauliques. Il faut maîtriser les fleuves et maîtriser les pluies. Et de là, nous avons de très grandes civilisations, autour de l'Indus, du Gange, du Brahmapoutre, à Java, en insulaire, en Indonésie. Et c'est ça qui est intéressant, vous voyez, quelque part, l'islam est très associé au monde aride et tribal. Si l'islam n'avait pris souche que dans ce monde-là, on pourrait mettre en doute son universalisme. Or, vous le savez, l'islam se veut religion universaliste. Mais comme l'islam s'est implanté dans le monde des moussons, effectivement, l'islam prouve, en quelque sorte, dépassant la zone aride et tribale, aridité chaude ou aridité froide, prouve son universalisme. Ça, c'est extrêmement important. Et voilà donc le double monde, les moussons, les tribus. Alors, si on veut affiner un petit peu cette approche géographique...
C'est là où vous définissez cette... Voilà, vous nous dites, vous écrivez dans votre livre qu'on peut distinguer sept aires musulmanes, et je crois qu'on va les distinguer rapidement avant d'évoquer cet universalisme qui est quand même largement teinté d'arabité. Je ne dis pas qu'on a là une contradiction, mais un des éléments de complexité de la question. Alors, quelles sont ces sept aires musulmanes?
Alors, les sept aires, travers les sept zones, les sept régions principales, nous avons ce que j'appelle le Proche-Orient. Alors moi, je vois le monde avec des lunettes de français, je ne dis pas Middle East, je dis Proche-Orient, je ne dis pas Moyen-Orient. Hein. Donc je dis Proche-Orient, c'est-à-dire ce qui est autour de la péninsule arabique, de l'Égypte à l'Iran, de la Turquie au Yémen. C'est la zone centrale, la zone centrale de l'islam. Le monde arabe chaud, le monde turc et iranien froid l'hiver. Le monde des bédouins, le monde des tribus, ainsi que la Perse, l'ancienne Perse. Ça, c'est le Proche-Orient. C'est le cœur musulman du monde. C'est aussi le cœur pétrolier du monde. C'est aussi le cœur polémologique du monde. Voilà. Ça, c'est une coïncidence. Nous avons l'Afrique du Nord, l'Égypte faisant l'interface entre le Proche-Orient et l'Afrique du Nord. Nous avons l'Afrique saharo-sahélienne, une immense bande du Sénégal jusqu'au Soudan, et notamment le nord du Nigeria, étant entendu que l'islam nigérian a largement poussé jusqu'à l'Atlantique. Nous avons la Corne de l'Afrique, autre région très importante. Une particularité, au cœur de cette région tout à fait fascinante, nous avons l'Éthiopie, qui est à moitié musulmane, qui est historiquement chrétienne. Le vieux christianisme amara et tigréen, mais il y a beaucoup de musulmans en Éthiopie, mais il y a une espèce de porte-à-faux, si vous voulez. L'Éthiopie, c'est le poids lourd de la région, 100 millions d'habitants, c'est une république fédérale et laïque, historiquement chrétienne, un christianisme monophysite, antique, oriental, et puis l'Éthiopie s'est agrandie, et donc s'est agrandie de territoires peuplés de musulmans, Afar, Oromo, Somalie, voilà. Nous avons la Corne de l'Afrique. Bon. Nous, voilà, donc ça fait Proche-Orient, Afrique du Nord, Afrique saharo-sahélienne, Corne de l'Afrique. Nous avons l'Asie du Sud, très importante. Donc ça, c'est l'Asie des Moussons. Là aussi, une particularité, au cœur de cette Asie du Sud, l'Inde. L'Inde qui comprend une forte minorité musulmane, mais qui est à majorité hindoue, et qui se veut laïque, qui se veut séculière. Bon, alors, c'est pas une laïcité à la française, c'est un peu spécial. Mais enfin, voilà. Donc là aussi, nous avons, c'est un petit peu comme pour la Corne de l'Afrique, c'est une grande région musulmane, mais le centre Éthiopie, Amhara, chrétien, et là, le centre indien, hindou. Mais nous avons d'énormes masses musulmanes au Pakistan, au Bangladesh, en Inde, bien sûr. En Inde, il doit y avoir près de 200 millions de musulmans. Et puis enfin, autre région que j'ai traitée dans mon bouquin, l'Asie du Sud-Est insulaire et archipélagique, fascinante, c'est le tout autre. C'est à la fois l'Extrême-Orient, l'islam et le monde amphibie, c'est la Malaisie et l'Indonésie. L'Indonésie est au centre de l'insule Inde, il y a une très forte poussée javanaise, donc musulmane, sur les périphéries, et même au-delà, sur tout Bornéo, sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée,
même les Philippines, Philippines,
Mindanao, tout à fait. Alors, l'Indonésie, c'est un pays très peu connu, enfin assez mal connu, c'est un pays fascinant, c'est le plus grand pays musulman du monde. L'islam n'y est pas en religion d'État, il y a 6 religions officielles, en Indonésie, dont l'islam, c'est un pays qui était très turbulent, qu'il est encore un peu, mais moins. Il y a eu des guerres Indonésie, Malaisie, avec les Philippines, le Timor oriental, bien sûr. Bon, c'est un pays, l'Indonésie, il y a Java qui est au milieu, javanise l'Indonésie, et l'Indonésie pousse sur toutes les îles de la région pour les unifier. Voilà nos régions. Puis une dernière région que je n'ai pas traitée parce que je l'ai traitée dans un autre de mes livres sur l'Eurasie, l'ex-URSS, c'est l'Asie centrale. Voilà. L'Asie centrale, autrement dit, d'une part l'actuel Xinjiang chinois, où les Ouïghours turcophones sont submergés par la sinisation, et puis l'Asie centrale ex-soviétique, les 5 républiques ex-soviétiques, 4 turcophones, et une persanophone. Ces républiques sont sunnites. Le Turkménistan, lui, est à majorité chiite. Voilà. Nous avons donc cette particularité. Alors, je n'ai pas traité de l'Asie centrale dans mon bouquin, disais-je, puisque je l'ai traité dans un autre ouvrage. Voilà. Et puis, ce que nous avons... vous voyez, l'islam embrasse une immense, d'immenses contrées, du Sénégal à l'Indonésie, du Nigeria au Kazakhstan. Donc, quelque part, cela atteste de son universalité. Bien sûr, nous rencontrons des minorités musulmanes en Afrique du Sud.
Justement, ce qu'on peut appeler, alors peut-être les diasporas pour l'instant, les diasporas musulmanes, en Europe et
alors, voilà.
en Amérique, parce que pour l'instant, c'est ce qui pourrait tempérer le terme de religion universelle, c'est que elle n'est pas ou elle n'a pas été présente pendant longtemps, sauf exception, en Europe
Tout à fait.
et sur le continent américain.
Voilà. Alors c'est ça, c'est le grand bémol, cela. Alors nous avons quelques musulmans en Suriname et en Guyane, ex-britanniques. Les Anglais et les Hollandais ont fait venir des Indiens. Bon. Mais voilà le fait fondamental. Apparemment, l'islam n'a pas mordu sur la zone tempérée. Vous voyez, tout à l'heure, ce que je racontais, l'islam aride, l'islam des moussons, je faisais le lien entre écologie et religion. C'est à creuser. Les chameaux, les dromadaires, l'islam a marché au pas des chameaux et des dromadaires. Voilà. Bon. L'islam n'a pas mordu en zone tempérée, sauf quand même, il y a deux exceptions, hein. La conquête arabo-berbère musulmane en péninsule ibérique et la conquête ottomane dans les Balkans, en Grèce et dans les Balkans. Et donc nous avons eu effectivement l'empire ottoman qui allait de l'Algérie aux actuels Balkans, et puis les empires dits arabes ou berbères qui allaient jusqu'en Espagne. Voilà. Mais donc il y a eu une implantation très longue, hein, de l'islam en péninsule ibérique et ainsi que dans les Balkans. Mais nous observons la chose suivante, péninsule ibérique, plus tard les Balkans, peu de gens du cru ont fait aslama, se sont convertis à l'islam. La plupart se sont contentés de subir ou de jouir de la dhimma, non pas la conversion à l'islam, mais la soumission aux musulmans. Donc là, il n'y a pas eu de conversion massive en péninsule ibérique ni dans les Balkans. Quelques conversions, mais limitées. Alors que lorsque l'islam a surgi la péninsule ibérique au 7e, 8e siècle, il y a eu des conversions massives à l'islam de la part des Égyptiens, des Syriens, qui jusque-là étaient des chrétiens monophysites, qui étaient plus ou moins d'ailleurs en bisbille avec l'Empire byzantin qui les contrôlait, mais il y avait des conflits entre les Grecs, les Byzantins et puis certaines populations locales. Bon. Bon, voilà, donc ça c'est un premier point, l'islam n'a pas mordu en zone tempérée. Et le deuxième point, ça c'est le plus important peut-être, le Nouveau Monde, les Amériques, Australie, Nouvelle-Zélande, ce ne sont point des musulmans, ni des orthodoxes d'ailleurs, qui ont découvert les Amériques, qui ont fait le tour du globe, ce sont des Ouest-Européens catholiques ou protestants. Et donc les Amériques sont devenus un continent catholique ou protestant. Nous avons bien sûr des musulmans qui ont pu émigrer aux Amériques, évidemment. Nous avons au Canada, aux États-Unis, des minorités musulmanes.
Au Brésil également.
En Europe,
au Brésil,
voilà,
on trouve des Libanais, souvent chiites, qui s'installent là-bas.
Oui, oui. Il y a des Libanais, effectivement, au Brésil, par exemple. Hein. Nous avons des musulmans en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Europe de l'Ouest. Mais ça, oui, c'est, comment dirais-je ici, j'allais dire, nous sortons de l'analyse géo-historique pour arriver dans l'analyse migratoire. Voilà. Alors, je n'ai pas accompli cela dans mon bouquin. Je me suis contenté, si je puis dire, de l'analyse géopolitique. Je me suis contenté des régions historiques musulmanes. Je n'ai pas voulu traiter de l'islam en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest ou en Australie, Nouvelle-Zélande, puisque là, je serais passé, disais-je, d'une analyse géopolitique à une analyse migratoire. Voilà. Et donc, je ne me suis pas senti capable. Mais c'est à faire, parce qu'effectivement, l'universalité revendiquée de l'islam, elle passe par, comment dirais-je, une extension en Europe et puis aux Amériques.
Oui, avec des interrogations majeures pour les musulmans. C'est leur rapport à la modernité de façon très concrète quand ils sont installés en terre européenne. Donc, est-ce que c'est le repli sur soi ou alors l'ouverture à une modernité occidentale,
oui,
qui peut être dangereuse pour eux du point de vue de la cohésion sociale?
Oui.
C'est la question de l'Ouma confrontée à d'autres mondes, au pluriel.
Tout à fait.
Je voulais poursuivre notre conversation sur ce point que vous mettez en avant et qui, à mon avis, est tout à fait intéressant pour comprendre le sujet du point de vue géopolitique. C'est ce contraste entre l'universalisme musulman que vous venez de décrire, du point de vue géographique, et puis du point de vue religieux, et puis l'arabité. Et derrière ça, il y a aussi le conflit actuel entre sunnites et chiites, entre perses et arabes. Parce que quand même, la source de l'islam est arabe, et cet universalisme-là, il est quand même très marqué par ses origines. Alors comment cela est vécu aujourd'hui ?
Tout à fait. Et effectivement, islam et arabité sont, comment dirais-je, c'est la même matrice en quelque sorte. Il y a un lien très étroit entre islam et arabité. Moi, j'ai coutume de dire, de manière un peu comme une boutade, hein, que les musulmans sont meilleurs monothéistes que les chrétiens. Il y a chez eux un monothéisme absolu, rigoureux. Il n'y a pas de Vierge Marie, même si Marie est honorée. Il n'y a pas de saint.
Oui, c'est la question de la Trinité et qui parfois les amène à considérer les chrétiens comme des associanistes.
Exactement, des associateurs.
Avec tous les reproches qui vont
bien
avec.
Bien sûr, et n'oubliez pas que l'islam a surgi au 7e siècle, donc c'est Mahomet. La péninsule arabie comprenait des juifs, des chrétiens, alors les chrétiens de la région qui étaient monophysites, hein, pour qui il y avait d'énormes disputes sur la nature du Christ.
Bien sûr.
Vrai Dieu, vrai homme, duophysisme, monophysisme. Mmh. Ah, il y avait des hérésies, entre guillemets, hérésies ou pas guillemets, je ne sais pas, enfin, selon lequel Jésus est un prophète plutôt que vrai Dieu.
Oui, mais
vrai homme.
De plus en plus, les études, mais même du côté musulman, quand les gens essaient de sortir d'un certain carcan, montre que les origines de l'islam ont quelque chose à voir avec cette prolifération d'hérésies chrétiennes, et que entre le monophysisme
et
puis...
Moi, je pense que Mahomet il a tranché à sa façon les querelles christologiques de l'époque. Il a dit, Mahomet, Dieu n'engendre pas et n'est pas engendré. On dit, il n'y a pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il n'y a pas Trinité, il y a Dieu, le tout autre, absolument transcendant, absolument unique. Voilà. Il a tranché cela. L'islam, un monothéisme rigoureux, c'est également une religion très efficace. Hein. C'est saint, clair, voilà. Il n'y a pas les complications christologiques, trinitaires, eucharistiques que nous avons dans notre christianisme. Mais je dirais que si l'islam est meilleur monothéiste que le christianisme, j'oserais dire qu'il est moins bon universaliste du fait du lien avec la langue arabe et la culture arabe.
Voilà. Et du fait que le dogme de l'incarnation dans le christianisme permet une acculturation plus facile que pour l'islam, et j'y reviens, marqué par cette arabité. Alors, est-ce que cette arabité est contestée aujourd'hui, alors, plus violemment qu'elle ne l'a été, avec la montée en puissance de l'Iran ?
Voilà, alors, écoutez, en gros, islam, arabité, une particularité, c'est que l'islam a une langue sacrée qui est une langue vivante, l'arabe. Alors, l'islamisation a été en partie de pair avec l'arabisation. C'est l'islam qui a porté la langue arabe. Et donc nous avons eu, dans ce qu'on appelle le monde arabe, entre Irak et Maroc, nous avons eu donc des populations qui n'étaient pas arabophones, qui n'étaient pas musulmanes, qui étaient chrétiennes, qui parlaient l'égyptien, l'araméen, le berbère. Bon, ces populations ont adopté l'islam et
l'arabe.
Pas toutes. Certaines populations n'ont adopté que l'arabe, à savoir ceux qui sont restés chrétiens. De moins en moins nombreux, il en subsiste quand même. Mais donc, entre Irak et Maroc, le gros de la population a adopté la langue arabe, et ainsi que l'islam. Mais pas tout le monde l'islam. Tout de même, certains ont gardé le berbère. Certains ont gardé le kurde. Berbère et kurde, le gros est musulman, ils ont gardé leur langue. Là où l'islamisation ne s'est pas accompagnée de l'arabisation, c'est plus loin, c'est du côté du monde turc et du monde persan, de très haute civilisation, le monde persan. Turcs et persans ont adopté l'écriture arabe, pas la langue arabe. Et jusqu'à nos jours, Sauf les Turcs, sauf les Turcs.
Sauf les Turcs avec Kemal voilà. qui...
C'est ça. Kemal, dans sa révolution nationale, radicale, il a remplacé l'écriture arabe par l'alphabet latin. Et puis les Turcs de l'Est, n'oublions pas cela, Empire russe puis URSS, l'écriture cyrillique a remplacé l'écriture arabe. Et depuis les indépendances en Asie centrale, eh bien, il n'y a eu aucun retour à l'écriture arabe. Certains ont gardé le cyrillique, d'autres ont adopté l'alphabet latin. Au Kazakhstan, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez, mais en revanche, en Iran, on a conservé l'écriture arabe. Mais, attention, la langue reste persan, avec d'autres langues. Vous savez que l'Iran est pluriethnique, il y a un noyau persan, et puis autour, il y a des arabophones, il y a des kurdophones, il y a des azéris, il y a des turbènes, il y a des baloutches, il y a des arméniens. Bon. Alors, voilà. Et au-delà encore, vous voyez, donc, Asie du Sud, Asie du Sud-Est, Afrique saharo-sahélienne, Corne de l'Afrique, islamisation qui se poursuit brutalement ou lentement, mais qui se poursuit, mais par arabisation. Sauf que quand même, on a beau dire par arabisation, pour la prière, il faut prononcer en arabe les premiers éléments de la prière. Hein. Premièrement. Et deuxièmement, qui veut se convertir à l'islam, c'est très facile de se convertir à l'islam, mais il faut prononcer en arabe la formule « Il n'y a de Dieu que Dieu et Mahomet est son prophète voilà. ». Donc quelque part, quand même, l'islam porte l'arabe. Alors il y a une grosse dispute de nos jours, c'est que ceux qui maîtrisent l'arabe et qui utilisent l'arabe, parmi les musulmans, notamment en Afrique subsaharienne, reprochent à ceux qui ne sont pas arabophones de ne faire que réciter le Coran, bêtement, allais-je dire, sans le comprendre véritablement. Voilà. Alors là, vous voyez, se dessine un grand conflit, le gros des subsahariens, donc Sahel, Sahara, Sahel, le gros des populations est musulmane, mais certains sont arabophones, d'autres sont francophones ou anglophones. Bon. Et voilà que les premiers reprochent aux seconds, vous ne faites que réciter, canonner, allez-je dire, vous ne maîtrisez pas. Vous voyez, à nouveau, l'islam porte, chez certains musulmans, notamment ceux qui adhèrent à l'islam salafiste, prônent l'arabisation. Oui. Alors là, ça peut susciter conflit, parce que pour bon nombre d'Africains, non seulement l'islam africain est très syncrétique, il y a des traditions maraboutiques, etc., qui sont très mal vues des salafistes, mais en plus, les Africains entendent garder leur langue, ou garder le français, ou l'anglais, qui est très pratique, bon. Et là, oui, ça crée un conflit autour de la langue arabe.
Alors, sur ce kaléidoscope, ou cette mosaïque que vous nous décrivez, du point de vue géographique, mais aussi du point de vue sociologique, du point de vue linguistique, se dessinent deux choses que vous mettez aussi en avant dans votre ouvrage. La première, quand on regarde la carte de l'islam, c'est que cette communauté musulmane, cette Oumma, est coupé en deux par le chiisme iranien. Et ça, c'est très frappant. Et la deuxième chose, c'est que vous nous dites que au-delà de cette diversité, il y a un théocentrisme et puis surtout un géocentrisme avec les grandes villes saintes et notamment la Mecque, qui sont au cœur du monde arabe et de l'islam du désert, de l'islam du chameau. Donc voilà, c'est deux choses. C'est un Iran qui fait la part entre l'islam à l'ouest et l'islam à l'est, qui les divise alors qu'il est chiite et donc schismatique par rapport à la doxa sunnite. Et puis quand même, ces grands centres religieux qui sont dans cet islam arabe. Alors voilà, c'est force centrifuge et centripète.
Oui, tout à fait. Effectivement, le chiisme iranien coupe l'islam en deux, effectivement. L'islam des moussons à l'est, l'islam des tribus à l'ouest. Oui, il y a une particularité iranienne. Hein. Les Iraniens ont adopté l'écriture arabe, mais pas la langue. Ils sont restés fiers de l'antique civilisation. Et il y a cette coupure. Alors attention, le chiisme n'est pas né en Iran. Hein. Il vient des Arabes, hein. il vient de ceux qui ont refusé les successions.
Rappelons que du coup, c'est que la question de la succession du prophète, soit par son beau-père, soit par son gendre, a divisé très très tôt l'islam, mais qu'à l'origine, effectivement, le chiisme prend sa source dans le monde arabe, mais qu'ensuite, l'Iran et la civilisation perse vont donner à ce chiisme une grande importance.
Exactement. C'est plutôt en gros, c'est en Irak du Sud, en vérité, que s'est implanté le chiisme. Le chiisme, hein, pour, en gros, il y avait les partisans d'Abou Bakr et les partisans de Ali. C'est pour ça que les chiites s'appelaient le parti d'Ali, Chiat Ali. Et de là vient chiisme, et qui ressemble à schisme en français. Voilà, donc c'est arabe en fait, c'est une querelle de succession. C'est une querelle sur la légitimité de la succession du prophète. Qui succédera légitimement au prophète, à la fois chef religieux, politique et militaire.
Et donc avec des conséquences, et vous le dites bien dans votre ouvrage, des conséquences sur la vision que les uns et les autres ont de la société, notamment parce que dans le chiisme, on a un vrai clergé, et oui. Que cette différence par rapport au sunnisme est essentielle.
Oui, c'est une différence fondamentale. Dans le chiisme, il y a un clergé hiérarchisé, c'est peut-être pas une église comme nous l'avons, mais ça y ressemble un petit peu, il y a un clergé hiérarchisé, donc ce sont des professionnels de la religion, attention, ce sont des hommes non célibataires, des hommes mariés, donc ça crée des lignées sacerdotales, ça crée des réseaux familiaux, il y a une très forte osmose hein, entre le clergé et au moins une part de la population iranienne. Mais oui, l'Iran coupe en deux le monde musulman, et le chiisme plus généralement crée une espèce de bifurcation. Alors le chiisme est majoritaire en Iran, en Irak, au Turkménistan, à Bahreïn, et puis il est très présent en Syrie, au Liban, au Yémen, au Pakistan, en Afghanistan, en Inde, en Arabie Saoudite, au Koweït, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar. Hein, il y a une espèce de diaspora, ne serait pas le mot exact, mais une espèce de chapelet en quelque sorte, de minorités chiites qui sont très très présentes. Alors attention, en Arabie Saoudite, les chiites sont présents au Haza, et le Haza, c'est la grande région pétrolière. Donc c'est vraiment une position tout à fait névralgique. Alors vous voyez une petite observation actuelle, ce qui m'a frappé dans la guerre qui vient de s'achever et qui va peut-être reprendre, c'est qu'il n'y a pas eu de soulèvement chiite. Le guide Ali Khamenei a été tué le 28 février. Ali Khamenei ne se veut pas que le chef de l'État, mais le chef du chiisme mondial, et seul le Hezbollah libanais a pris les armes. Ça, à mon avis, c'est quand même un gros échec de l'Iran, ça, de l'Iran d'aujourd'hui. Mais j'anticipe. Je reviens à ce que vous disiez, donc l'Iran coupe en deux. Et puis, universalité, oui, vous avez raison, rime avec centralité. L'islam est composé, au plan géographique, de cercles concentriques. Nous avons le pôle, c'est la Kaaba, la Mecque, Médine. Nous avons le Hedjaz. Nous avons l'Arabie Saoudite, enfin l'Arabie qu'on appelle Saoudite depuis 1932, depuis que Ibn Saoud l'a unifié. Nous avons la péninsule arabique, et nous avons l'enveloppe immédiate, croissance fertile au nord, Égypte-Soudan à l'ouest, Yémen, Oman au sud, Iran à l'est, et puis au-delà, l'enveloppe externe, comme on dit, alors c'est Turquie, Afrique du Nord, Asie centrale, Asie du Sud, Corne de l'Afrique, ouais, une espèce de... Et puis au-delà, donc nous aurions, si l'islam s'installe en Europe de l'Ouest et puis aux Amériques, ben nous aurions l'ultime cercle, le cercle du monde tempéré, du monde européen, où des minorités musulmanes ne se seraient pas assimilées aux Européens et aux Nord-Américains, mais constitueraient des communautés à part, soit semi-fermée, soit expansive, tout dépendrait.
Alors c'est à partir de cette vision par cercle concentrique de l'islam et du géocentrisme qui l'anime que nous pouvons aborder la question de la vision religieuse des relations internationales, parce que, comme vous le démontrez dans votre livre, elle se fonde sur des qualificatifs qu'on applique au territoire en fonction de trois catégories, vous nous direz qu'il y en a peut-être plus. La piété, on a des territoires de la piété, le dar al-islam, on a les territoires de l'impiété, le dar al-kufr, on a les espaces de guerre, le dar al-hab, où l'imposition de la souveraineté peut se faire, soit par l'appropriation des biens mobiliers ou d'autres choses, et puis on a les espaces de paix qui s'appliquent aux pays tributaires, aux pays sans traité et aux pays hérétiques. Donc voilà, il y a vraiment une vision
Oui.
religieuse, et ça, des relations internationales. Et on revient à ce que vous nous disiez en introduction, cher David Cumin, c'est que on ne peut pas comprendre la paix et la guerre en islam sans avoir au préalable qualifié, du point de vue de l'islam, ces différents territoires selon leur degré d'adhésion à la foi musulmane.
C'est tout à fait frappant. Ça peut nous rappeler un petit peu le Moyen-Âge chrétien, où on divisait le monde, la République chrétienne et puis au-delà du monde chrétien. Bah, c'est un petit peu comme cela. Voilà, c'est une vision binaire. C'est très, très significatif. Ça correspond vraiment, vous voyez, aux visions traditionnelles du monde, hein. Polarité, le monde de la foi, le monde de l'impiété, c'est très typique. Alors en gros, nous avons donc le monde musulman, le monde de la piété, le monde où l'islam est majoritaire et dominant, le dar al-islam, voilà, les territoires de la piété, comme on dit, dominent l'islam. Alors domine l'islam, qu'est-ce que ça signifie? Majorité démographique, domination politique, c'est un peu ambigu. Et puis au-delà
Ah, vous dites ambigu de votre point de vue, ou même pour un musulman, il pourrait avoir des difficultés à définir ce qu'est un... Si on est en Arabie Saoudite, il n'y a pas de problème. Si on est, alors on y reviendra dans le cours de notre émission, dans les États qui ont essayé de faire plus ou moins le partage entre religion et enfin entre temporel et spirituel, mais c'est des catégories qui sont chrétiennes et peut-être difficiles à appliquer. Mais pourquoi nous dites-vous que même pour les territoires de la piété, il y a une certaine ambiguïté?
Alors, il y a une raison contemporaine qui me fait dire cela, c'est pour que des États adhèrent à l'OCI, la grande OIG musulmane, l'unique OIG religieuse du monde, l'unique organisation intergouvernementale religieuse. C'est l'OCI, l'organisation de la conférence islamique, qui est devenue en 2008 l'organisation de la coopération islamique.
Oui, alors
Il y a 57
effectivement,
États.
oui, mais pas tous, certains ne
Voilà.
peuvent pas être définis comme strictement musulmans.
Exactement. Donc il y a des critères pour faire partie de l'OCI, c'est être un État déjà reconnu. Bon, donc c'est pas évident. Le Kosovo n'est pas membre de l'OCI, parce que c'est pas un État reconnu par tout le monde. Voilà. Donc vous voyez, le concept d'État, qui est
Le
un concept moderne.
Liban est membre de l'OCI?
Le Liban est membre de l'OCI. Voilà.
Oui,
Alors que les
alors
musulmans.
que effectivement, sa constitution de 43 ne
Voilà.
fait pas
Il
de
n'est pas
lui
de revenu.
un État
Voilà.
musulman.
Voilà. Exactement. Le Gabon est membre de l'OCI, alors qu'il est majoritairement chrétien, mais son chef d'État est musulman. Le Nigeria est majoritairement musulman, mais sa constitution est laïque. Donc, est-ce que, selon les critères anciens, est-ce que le Nigeria fait partie du dar al-islam, du monde musulman, du monde de la piété? D'un certain point de vue, oui, majorité démographique. D'un certain point de vue, non. Parce que laïcité, parce que dans les États fédérés du Nord, nous avons des tribunaux musulmans qui sont en vigueur pour les musulmans qui
Oui, qui
l'acceptent.
applique la charia.
Et voilà, le droit civil musulman seulement, c'est pas tout le droit, hein, c'est la charia au sens strict, au sens du droit civil musulman. Vous voyez l'ambiguïté. Ce qui est intéressant de faire, c'est de comparer les critères pour adhérer à l'OCI et les critères de l'islam ancien. Il y avait monde de la piété, monde de l'impiété.
Et là, il y a des
C'est pour ça
différences.
qu'on est un peu d'ambiguïté. Le Gabon, le chef de l'État est musulman, très bien, mais pour autant, le Gabon est laïque et la majorité de la population est chrétienne. Et pourtant, le Gabon peut adhérer à l'OCI, vous voyez? La Russie est membre observateur, attention, observateur hein, de l'OCI. Voilà. Donc, vous voyez, c'est la Côte d'Ivoire est membre de l'OCI. Pourtant, majoritairement, elle est chrétienne. Tout le monde connaît la grande basilique de Yamoussoukro.
Et l'OCI,
Vous voyez?
qu'apporte l'appartenance ou l'adhésion à l'OCI? Il y a des intérêts
Alors, l'OCI,
économiques,
si vous
de
voulez.
l'entraide.
Oui, c'est ça. Bon, au fond, l'OCI, qu'est-ce que c'est que l'OCI? C'est l'ONU des musulmans. Avec ce que cela induit et implique, l'aspect un petit peu donc fort, une tribune mondiale. L'aspect un petit peu ectoplasme, bon, c'est un peu, euh, c'est, 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 c'est toujours les plus petits dénominateurs communs qui s'imposent, quoi. Donc c'est un peu un ectoplasme, hein. Mais enfin, c'est intéressant parce que c'est la seule OIG religieuse. Il y a des critères pour appartenir à cette OIG. C'est un État musulman. Musulman, ça veut dire quoi? Majorité démographique et ou chef d'État musulman. Il n'est pas nécessaire que l'islam soit religion d'État. Nous avons des États dont la constitution est laïque. Vous voyez, c'est très ambigu. Je vous rappelle, l'OSI est né des efforts du Pakistan, de l'Arabie Saoudite, du Maroc dans les années 69-72. L'OSI, donc trois pays qui étaient proches de l'Occident au plan diplomatique, face au bloc soviétique, à l'époque de la guerre froide. Bon. En même temps, ces trois pays qui étaient conservateurs, pro-occidentaux au plan diplomatique, voulaient marquer leur différence par rapport à l'Occident. Ils sont musulmans. Donc ils voulaient rassembler les pays musulmans derrière eux. L'OSI devait faire pièce à la Ligue arabe, qui était plutôt progressiste, plutôt à gauche, plutôt pro-soviétique. Et donc l'OSI voulait, ces trois pays-là voulaient qu'adhère un maximum d'États, pas que des pays arabes conservateurs, mais tous les pays musulmans, même marqués à gauche. La Libye de Kadhafi a adhéré à l'OSI, vous voyez. L'Irak de Saddam Hussein plus tard, l'Irak a adhéré aussitôt, la Syrie a adhéré. Et je rappelle qu'à l'époque, la Syrie baasiste était très à gauche. La Syrie baasiste se voulait laïque, vous voyez.
Donc c'est quand même c'est à la fois flou, mais c'est un excellent laboratoire, en tout cas, où la mosaïque que vous nous avez décrite en première partie est tout à fait visible et incarnée dans cette organisation.
Et alors, un dernier point, moi qui suis un adorateur de la langue française, l'OCI a pour langue officielle l'arabe, l'anglais et le français. Et oui.
Alors ça, nous avons évoqué l'OCI parce que nous évoquions dans la vision religieuse des relations internationales ce que les musulmans appellent les territoires de la piété. Mais à l'opposé, il y a les territoires de l'impiété.
De l'impiété.
Voilà. Le Dar al-Kufr. Oui, alors voilà. Là, de quoi s'agit-il exactement et quelles peuvent être les conséquences en droit international?
Voilà, alors effectivement, ces territoires-là, où ne domine pas l'islam, soit minorité démographique, soit le contraire de domination politique, alors, il y a deux types de territoires de l'impiété. Il y a les espaces de la guerre, ouverts au combat violent, soit pour l'appropriation de biens meubles, on appelle ça la ganima, c'est la radia. Quoi.
Et là, on revient aux sources de l'islam.
Ça, c'est les sources, ça, c'est l'islam traditionnel. Hein. L'islam traditionnel, en gros, en vigueur jusqu'au 19e siècle. Au 20e siècle, il y a eu un énorme aggiornamento nécessaire.
Imposé par les évolutions géopolitiques.
Exactement, par les rapports de force. Voilà. C'est que l'Europe s'est imposée. Et ses idées. Alors donc, territoire de l'impiété, nous avons deux types d'espaces. Espace de la guerre, ouvert au combat, soit pour s'approprier des biens meubles, soit pour imposer une souveraineté territoriale. Et là, la ganima se fait djihad, guerre sainte, pour promouvoir l'islam. Bon. Ça, voilà. Et puis nous avons quand même les espaces de la paix. Alors, quelle est la différence entre espace non-musulman ouvert à la guerre et espace non-musulman ouvert à la paix? Eh bien, tout simplement, les espaces de la paix, pour demeurer espaces de la paix, selon l'islam traditionnel, qui prévaut du 7e au 19e siècle, eh bien, il faut être ouvert à la prédication. Le territoire non musulman dont le souverain accepte la prédication musulmane, ce territoire-là, les puissances musulmanes peuvent être en paix avec lui, sans réciprocité, évidemment, hein.
Alors concrètement, il n'y a pas de réciprocité, c'est-à-dire que l'annonce de l'évangile n'est pas acceptable.
Pour une raison très simple, que vous devinez bien, quand on est persuadé d'incarner la vérité et le salut, on ne tolère pas que soit diffusée l'erreur et la perdition.
Alors aujourd'hui, dans ces espaces de guerre, qui ont peut-être un côté un peu archaïque, est-ce qu'on peut encore les définir aujourd'hui?
Non, bah, si vous voulez, les salafistes, ceux qu'on appelle les islamistes sunnites, certains reviennent bien sûr, le gros revient à la doctrine islamique traditionnelle, avec quand même quelques changements, mais enfin, en gros, les salafistes armés renouent avec la doctrine du djihad. Et autrement dit, en gros, il y a deux ou trois choses. Il y a l'islam. En gros, si vous voulez, il y a deux choses. Il y a la volonté de vouloir récupérer des territoires autrefois musulmans, donc style Palestine, Andalousie, pourquoi pas Balkans, Chypre, voilà. Ou bien carrément, puisque l'islam a un dessein universel, conquérir le monde entier. Donc effectivement, les salafistes armés renouent avec la doctrine du djihad, promeuvent le djihad. Le djihad ne fait pas partie des cinq piliers fondamentaux de l'islam. Eux voudraient l'ériger en sixième pilier, voire en pilier suprême. Mais ça, ce sont, je dirais, les salafistes armés. C'est pas le gros des musulmans, ni même une part des salafistes. Certains salafistes se contenteraient de prêcher et pas de guerroyer. Alors, espace de la guerre, espace de la paix. Espace de la paix, ce sont les territoires où la prédication musulmane est autorisée. Et dans les espaces de la paix, on distingue deux ou trois choses. On distingue les pays tributaires. Autrefois, c'était les principautés de Valachie ou de Moldavie qui étaient tributaires de l'Empire ottoman. Autrement dit, des pays avec lesquels des traités inégalitaires ont été conclus. Ou bien nous avons des pays amis avec lesquels des traités égalitaires ont été conclus. Le grand exemple, c'est la France. France des Valois et des Bourbons, grand allié de l'Empire ottoman.
Alors avant de poursuivre, mon cher David Cumin, une toute petite pause pour un bobino.
Oui.
Face à l'offensive de la gauche pour bâillonner les médias vraiment libres, Radio Courtoisie a plus que jamais besoin de vous pour se renforcer, pour se protéger, pour défendre vos idées. Vous êtes 1,5 million, presque 2 millions à nous écouter, mais vous n'êtes pas encore 20 000 à nous donner. Vos idées valent bien 1 euro. 1 euro pendant l'été, pourquoi pas 1 euro par mois? 1 euro pour garantir vos idées. 1 euro contre la censure. 1 euro pour rester libre. Cet été, aidez Radio Courtoisie à donner de la voix. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75016, Paris. Radio Courtoisie, libre et indépendante, grâce à vous.
Vous êtes à l'écoute du Libre Journal de la Défense. Cette émission a été enregistrée le 8 juillet 2026 et j'ai le plaisir de recevoir David Cumin pour évoquer son ouvrage « Guerre et paix en islam, géopolitique et polémologie des régions et des pays du monde musulman, 20e-21e siècle » en 2 tomes. Et nous étions à ce moment de l'émission où par un retour dans le passé, nous évoquions les relations entre la France des Bourbons et l'Empire ottoman, ce qui va nous permettre peut-être de dire d'éclairer davantage les relations que du point de vue musulman, eh bien l'Empire ottoman pouvait entretenir sans contrevenir aux règles de l'islam avec le roi très chrétien. Je vous cède la parole, David.
Merci, oui, effectivement, l'histoire de France est fertile en rebondissements. Vous savez que notre pays, c'est un pays qui, à partir de François Ier, la France a voulu développer une diplomatie laïque, tenant compte uniquement de l'intérêt national. Autrement dit, nous n'avons pas hésité à tort ou à raison. Hein.
Reprise ensuite pour une part par Richelieu.
Voilà, nos rois, puis nos cardinaux. Oui. N'ont pas hésité à s'allier avec des protestants, avec des musulmans, contre des catholiques.
Mais ça, c'est peut-être le distinguo du temporel et du spirituel, et voilà. Puis la difficulté à faire le partage entre les intérêts supérieurs de l'État et ceux de l'Église, incarné notamment dans la personne du cardinal de Richelieu. Mais voilà, je vous laisse, reprenez la parole pour évoquer un peu cette relation de François Ier avec les Ottomans.
Alors oui, effectivement, François Ier et puis Soliman le Magnifique ont noué alliance contre les Habsbourg d'Autriche et d'Espagne. Alors, c'est une alliance très importante, et ce qui fait que... alors attention, à l'époque, c'était en 1536, hein, le sultan et calife se voulaient quand même supérieur au roi de France. Hein. Pour lui, c'était... Lorsque François Ier signe avec lui, c'est le sultan calife qui lui faisait un petit peu une grâce, en quelque sorte.
Pour des raisons religieuses ou politiques, se considérant comme empereur par rapport à un roi?
Dans l'islam, oui, il n'y a pas de distinction de temporel et du spirituel,
oui,
ce qui fait
bien
que
sûr
le sultan est calife, est à la fois, je dirais, empereur et pape, en quelque sorte.
Oui.
Et donc, là, il y a ce premier point, puis il y a le second point, il y a cette idée que l'islam, comme aurait dit Mahomet, l'islam domine et ne saurait être dominé. Autrement dit, l'islam, c'est la vérité, c'est le salut, c'est la dernière religion de la souche hébraïque, c'est la dernière révélation. Les juifs et les chrétiens ont trahi le message originel, les musulmans ont repris la vérité, et juifs et chrétiens ont sombré dans l'erreur. Ils sont quand même peuple du livre, et par exemple, s'ils sont conquis, ils peuvent être traités en dhimmi, c'est-à-dire soumis, mais leur vie, leur culte, leur liberté, leur propriété sont protégées. Protégées au deux sens du terme, il y a un aspect positif, être protégé, il y a aussi un aspect également plus négatif, c'est être aussi intériorisé quelque part. Voilà, donc, nous avions des relations France des Valois, puis des Bourbons, et puis Empire Ottoman, qui étaient apparemment égalitaires, mais quelque part, la balance penchait du côté de l'Empire Ottoman, qui était très puissant en plus. Bon. Et puis au fur et à mesure du renversement des rapports de force, bon, l'alliance a continué, la France, sauf sous le directoire et Napoléon Ier, la France a été un soutien de l'Empire ottoman du 16e au 19e siècle, hein. Mais le rapport de force s'inversant, prépondérance navale, révolution industrielle, bon, l'Empire ottoman, vous savez son destin, en 1856, l'Empire ottoman tombe sous la tutelle des puissances européennes, voilà. Et puis, en 1918, l'Empire ottoman est vaincu. Mais attention, ce ne sont pas les Européens qui ont détruit l'Empire ottoman. C'est Kemal. C'est le nationalisme.
Et en 1924, c'est ça, 1924, c'est la fin de l'Empire, voilà. De l'Empire ottoman.
En 22, Kemal abolit le sultanat et en 24, le califat. Il y a 102 ans. Alors c'était un moment extrêmement important, un moment apocalyptique pour les musulmans. Le califat symbolisait l'union de tous les musulmans, au moins sunnites. Et voilà que l'institution califale disparaît. Alors c'était un choc, un traumatisme terrible, n'est-ce pas? Et vous savez ce qui s'est passé, 4 ans après, pour en quelque sorte reprendre le flambeau, a été créé en Égypte, l'Égypte qui fut le premier pays à s'émanciper de l'Empire ottoman en 1830.
Et l'avènement des frères musulmans et du frérisme...
Qui
aujourd'hui occupe le devant
de
la scène. Alors, c'est vrai qu'en évoquant François Ier, Soliman, et puis la chute, la fin de l'Empire ottoman, vous nous décrivez à la fois la certaine souplesse d'un islam pour entretenir des relations avec d'autres pays, et en même temps, vous nous brossez cette fresque assez grandiose d'un Empire ottoman qui va s'effondrer, qui va donner, en tout cas, auquel va succéder, non pas territorialement, mais du point de vue idéologique, cette doctrine des frères musulmans qui, jusqu'à nos jours, va porter une partie de ce qu'on peut appeler le renouveau islamique, si je puis dire. Mais ce renouveau, vous nous le dites dans votre livre, il est aussi marqué par le djihad, la question de la guerre sainte, de sa définition et de l'emploi du djihad par le salafisme notamment. Et ces éléments-là, c'est-à-dire nature du djihadisme, nature du salafisme, sont indispensables pour comprendre les conflits contemporains qui sont marqués par la place de l'islam. Alors, cher David Kuma, j'aimerais vous entendre sur cette question. En mettant peut-être quelques dates et puis en plaçant quelques lieux de telle sorte que nos auditeurs ne soient pas perdus, cette relation entre salafisme et djihadisme. Et puis revenir à une définition un peu théorique du djihad, dont vous nous dites que les interprétations de la sourate 8 du verset 60, c'est-à-dire terroriser l'ennemi de Dieu et le vôtre, peuvent différer selon que l'on se place dans tel ou tel courant de l'islam. Donc, voilà, théoriquement, quel est ce djihad qui n'est pas dans les piliers de l'islam, et puis sa transposition en termes politiques?
Alors effectivement, le djihad, c'est la doctrine musulmane de la guerre et de la guerre. C'est la doctrine musulmane de la guerre et du droit de la guerre. En islam, n'est juste que la guerre sainte. C'est-à-dire la guerre au nom de Dieu et pour la cause de Dieu. C'est un droit de la guerre. Qui dit droit de la guerre, Et cela vaut pour toutes les civilisations, et cela vaut aussi pour l'époque contemporaine, qui, dit droit de la guerre, dit auteur, autorité, investi, du droit de déclarer et de faire la guerre.
Là, on retrouve un peu saint Thomas d'Aquin, pour la légitimité de l'autorité.
Oui, tout à fait. Vous avez raison, si on fait un comparatif universel, le droit de la guerre existe dans toutes les civilisations, y compris la civilisation médiévale chrétienne, on le retrouve en islam, on le retrouve dans le monde hindou, on le retrouve dans l'Afrique ancienne, on le retrouve aujourd'hui. Donc nous avons ce qu'on appelle le jus ad bellum en latin.
Oui, le droit de la guerre, le droit dans la guerre.
Le droit à la guerre, donc ça, c'est la question des autorités, des auteurs, des autorités,
de l'objet, de l'objet.
Voilà. C'est la question des buts, des causes, des objets, voilà, c'est ça. Quand est-ce que la guerre est licite? Bon, alors répondent les musulmans. Qui a le droit de déclarer de faire la guerre? Bah, c'est le calife. Et puis, pourquoi pas les sultans, les khans. Les autorités, quoi. En gros, les autorités politico-religieuses. Ça, c'est les autorités. Ensuite, les buts. Une guerre licite, une guerre sainte, c'est la guerre pour la cause de Dieu. Donc, c'est pour défendre l'islam.
Alors là, ça peut être, ça peut être très vaste.
Qui étaient musulmans et qui étaient perdus.
Oui, ça peut être...
C'est pour promouvoir ou étendre l'islam, vous voyez.
Oui, là, on est dans une analyse, enfin, une vision plus globale, plus générale que celle de saint Thomas d'Aquin sur la guerre juste.
Ah oui, sans doute. Hein. D'Augustin Thomas d'Aquin, la doctrine chrétienne, de la patristique à la scolastique, elle a son évolution. Mais si vous grattez bien, je crois que le moment clé, quand est-ce que l'Église élabore un droit de la guerre à peu près complet, c'est au Xe siècle, me semble-t-il. C'est entre 975 et 1025. C'est au-delà. C'est, Thomas d'Aquin, c'est quelqu'un qui poursuit en quelque sorte l'œuvre et qui la parachève. Mais au Xe, XIe siècle, l'Église avait élaboré le gros, et si on gratte un petit peu, nous rencontrons toujours ces quatre éléments, auteur, autorité, acteur, combattant, but, et puis modalité. Alors, dans la doctrine musulmane de la guerre, nous rencontrons cela, n'est juste que la guerre sainte, la guerre autorisée par l'autorité politico-religieuse, calife, sultan, khan, émir, la guerre dont les buts sont ou la protection ou la promotion de l'islam, la cause de la religion. Troisièmement, qui dit guerre sainte dit combattant habilité, combattant se plaçant sous le signe du croissant.
Mais quand il s'agit d'une guerre, attendez David, quand il s'agit d'une guerre intra-musulmane, parce que pour doctrine chrétienne, on peut aussi appliquer les éléments de la guerre juste en interne. Tandis que là, j'ai bien compris qu'il y a cette doctrine vis-à-vis de l'extérieur, mais quels sont les critères quand...
Alors, je vais vous dire ça dans un instant.
Je vous en prie.
Ce que vous dites ici, c'est l'ennemi. Il faut savoir qui est l'ennemi. Alors, donc, auteur, but, acteur. Donc, un combattant musulman, ce n'est, selon le droit musulman traditionnel, ce n'est pas un olibrius, c'est pas un fou furieux, c'est pas un voyou. C'est quelqu'un qui a appris, qui s'est préparé, qui obéit. Et puis nous avons les modalités, enfin. Une guerre sainte obéit à des modalités. Autrement dit, on n'attaque pas des civils en arborant une tenue civile. Voilà. C'est pour ça que je dis que les djihadistes d'aujourd'hui trahissent la doctrine musulmane traditionnelle. Moi qui ne suis pas musulman, j'ose dire cela. Auteur, acteur, but, moyen. Et puis nous avons l'ennemi. Qui est l'ennemi? La guerre n'est justiciée que contre un ennemi justicié. Qui est l'ennemi de l'islam? Le mécréant. Ça, c'est l'ennemi extérieur. Il peut y avoir l'ennemi intérieur, l'hérétique, ou le rebelle, ou le tyran. Alors l'hérétique, vu du sunnisme, c'est les chiites. Le rebelle, c'est celui qui fait l'apostasie. C'est celui qui renie l'islam.
Et le tyran...
En contrepoint, ce serait le musulman qui se rallie à la modernité.
Oui.
Et enfin, le tyran... Bah, c'est l'autorité qui, elle aussi, fait apostasie. C'est l'autorité qui renie l'islam.
Ah oui, donc dans tous les cas...
C'est Hussein qui était socialiste et qui... Et je rappelle que les grands oulémas saoudiens voulaient la peau de Saddam Hussein.
Oui, donc dans tous les cas, les critères finaux sont religieux, qu'il s'agisse d'une guerre vis-à-vis de l'extérieur du monde musulman ou même en interne. On est toujours, toujours, c'est bien le fil rouge de votre ouvrage et de la pensée que vous avez développée, c'est qu'on est dans un monde confessionnel où, pour reprendre des termes chrétiens, temporels et spirituels sont parfaitement imbriqués.
Exactement.
Et donc la guerre ne peut se penser, ne peut se penser que à travers des critères religieux.
Exactement, exactement. Il n'y a pas de distinction temporelle, spirituelle. Autrement dit, il n'y a pas, comme dans le christianisme ancien, la guerre juste au plan temporel, la guerre sainte au plan spirituel. Dans la doctrine chrétienne, nous pouvions distinguer guerre juste, guerre sainte. Pas dans la doctrine musulmane. Il n'y a de guerre juste que la guerre sainte. Mais d'un autre côté, tout peut être, comment dirais-je, confessionnalisé, puisqu'il n'y a pas de distinction temporelle et spirituelle. Donc effectivement, vous comprenez bien que les buts défendre l'islam ou promouvoir l'islam, ce sont là des buts très larges. Alors on peut les circonscrire, défendre l'islam lorsque un pays musulman est attaqué. Bon, il est bien normal qu'il se défende, bon, il n'y a pas de souci. Récupérer des territoires autrefois musulmans, djihad de récupération ou de reconquête, alors là, c'est encore assez limité, mais ça devient quand même assez spécieux, parce que jusqu'à quand un territoire doit-il être récupéré? La Palestine doit être récupérée, mais il y a Israël. Et puis pourquoi pas Chypre, et puis pourquoi pas l'Andalousie, et puis les Balkans.
Alors c'est vrai que cette logique peut connaître des entorses comme d'autres logiques. Je pense à la première guerre du Golfe, où pour reprendre le territoire du Koweït envahi par un État alors laïque mais quand même musulman, eh bien la coalition menée par les États-Unis comprenait des pays musulmans. Donc on peut.
Bien sûr.
Donc là, on n'était pas dans une approche vraiment religieuse, mais où des musulmans s'opposaient les uns aux autres.
Alors, il y a une approche mixte. D'un côté, l'Arabie Saoudite et les autres pays qui étaient du côté de la coalition contre l'Irak pouvaient bien sûr invoquer le droit national onusien. Mais attention, cela ne suffisait pas. Hein. Le roi d'Arabie Saoudite a demandé l'avis des grands oulémas saoudiens. On ne se contente pas des critères tirés de l'ONU. Et donc, qu'ont dit les oulémas, pouvait-on s'allier avec des puissances non musulmanes pour combattre une puissance musulmane? Oui, ont-ils répondu, parce que cette puissance musulmane-là était apostate. Saddam Hussein, le Baas, en vérité, avait trahi l'islam, avait envahi un pays musulman, et donc il était licite de le combattre. Parce que c'est comme si, vous voyez, Saddam Hussein était un apostat, quelqu'un qui avait renié le vrai Dieu, etc.
Donc finalement, on retombe bien dans les qualificatifs religieux et la nécessité de faire intervenir le religieux pour légitimer, oui. Légitimer un conflit. Alors, le temps passe, moins d'une demi-heure nous reste pour... Cette émission, je voulais pour nos auditeurs essayer de leur faire comprendre comment ces 20 dernières années, disons depuis la chute des tours à New York, l'intervention en Afghanistan, la montée puis la fin d'Al-Qaïda, la part de Daesh dans l'implantation d'un califat en Irak et Syrie, de façon un peu ramassée. Que peut-on dire de ces 20 dernières années du point de vue de la guerre et de la paix en islam? Quel est dans l'islam le courant qui s'est affirmé entre l'universalisme qu'on a invoqué, la question des États, pas des États-nations, mais enfin si, des États musulmans, le heurt entre ces deux logiques, l'alliance avec les États-Unis, après l'opposition des Américains alliés aux talibans en Afghanistan. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ces 20 dernières années et qui a fondamentalement modifié la donne de nos relations entre occidentaux, enfin entre l'Occident et le monde musulman?
Alors effectivement, il y a eu donc en gros ce qu'on a appelé de 2001 à 2021, ce qu'on a appelé la guerre au terrorisme, entre guillemets. Lorsque nos enfants, nos petits-enfants apprendront l'histoire du XXIe siècle, ils commenceront par la première vingtaine d'années. Qu'est-ce qui s'est passé au XXIe siècle? Il s'est passé ce qu'on appelait la guerre au terrorisme. Je mets toujours des guillemets parce que l'expression est farfelue. Hein. On ne fait pas la guerre des attentats, on fait la guerre des organisations ou des États accusés d'avoir commis des attentats. Bon. On aurait dû dire guerre au djihadisme, ça aurait été plus plausible. Mais ça mettait en cause l'islam. Et donc ça mettait en cause des amis musulmans, parce que nous avons des pays amis musulmans et des musulmans amis. Bon, c'est pour ça que Bush fils a cru bon de masquer la référence à l'islam en parlant de guerre au terrorisme. Voilà. C'était une astuce. Mais ça a compliqué les choses. Pour moi qui suis enseignant, il devient très compliqué de dire aux étudiants qu'est-ce que la guerre, qu'est-ce que le terrorisme, puis on a tout mélangé. Mais bon, ça ce sont mes petits problèmes de pédagogue, c'est pas grave.
Non, mais votre ouvrage leur permettra d'y voir clair.
Donc 2001, qu'est-ce qui se passe? C'est l'aboutissement d'un grand revirement. Les États-Unis ont utilisé là les religions contre l'URSS, le bloc soviétique, le camp socialiste, le communisme international. Le catholicisme en Pologne. Il y a une grande alliance Reagan-Jean Paul II. Et puis le sunnisme dans le monde éponyme, contre les partis socialistes, contre les régimes socialistes. Et d'abord en Afghanistan. L'Afghanistan, l'ordre des communistes afghans avait pris le pouvoir. Il s'est heurté à une résistance massive. L'Union soviétique s'est cru, a cru bon d'intervenir à Noël 79.
Pendant 10 ans, c'est ça. Les Russes vont quitter l'Afghanistan en 89, voilà. Ils vont y rester 10 ans.
Voilà. Et donc, nous avions cette alliance, États-Unis, sunnisme radical, ce qu'on appelle le salafisme, mouvement de retour aux sources de l'islam. Bon. Effectivement, les salafistes locaux, afghans et puis volontaires étrangers, dont arabes, dont bangladais, dont beaucoup d'autres, bon. Ils ont tenu en échec l'armée soviétique, ils ont tenu en échec le régime s'est effondré, etc. Bon. Donc c'est l'alliance. Et puis qu'est-ce qui se passe en 90-91? Au lendemain même du retrait soviétique, et le régime communiste afghan s'effondrera en avril 92. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'Irak envahit le Koweït. Bouclier du désert, tempête du désert, des centaines de milliers de soldats mécréants s'installent sur le sol sacré de l'Arabie Saoudite. Au grand dame, d'Oussama Ben Laden, et de tous les fréristes du monde, et de tous les salafistes du monde. Voilà. Et là date la rupture entre la monarchie saoudienne et les frères musulmans, ainsi que les autres salafistes musulmans. C'est le grand retournement. Le salafisme était l'allié de l'Occident contre le communisme. Le salafisme désigne l'Occident comme l'ennemi. En 1991. Et 10 ans après, nous avons l'apothéose, si j'ose dire, les attaques que vous savez, les deux tours. Et puis le Pentagone, etc. Bon. Et on entre, Bush fils réagit, il veut venger l'orgueil blessé. Bon, guerre au terrorisme. On appelle ces gens-là des terroristes et on leur fait la guerre.
Et entrer en Afghanistan.
Voilà. Et donc, comme Al-Qaïda a son sanctuaire territorial en Afghanistan taliban, eh bien, on va en Afghanistan, donc on entre par le Pakistan, on entre par l'Ouzbékistan, pays qui laissent l'armée américaine emprunter leur territoire, bon. Les talibans sont renversés, fin 2001, et commence la longue lutte pour créer un nouvel Afghanistan. Commence le state building, n'est-ce pas? Reconstruire un État afghan viable. Mais les talibans sont retournés à la guérilla. Et donc nous aurons 20 ans de guérilla, de contre-guérilla. Et au bout du compte, les alliés États-Unis se retirent les uns après les autres, lancés, dont la France, et les derniers à partir, en août 21, ce sont les Turcs et les Américains. Ouais. Bon. Pendant ce temps-là, ça c'est le front afghan. Al-Qaïda a essaimé un peu partout.
Oui, et pendant ce temps-là, Ben Laden avait été tué en mai 2011 par les commandos américains.
Voilà. Alors pendant ce temps-là, donc... La situation en Irak, donc l'Irak avait été vaincu en 91, l'Irak avait été soumis à embargo, boycott, contrôle, etc. de 91 à 2003. Bon, et donc après 2001, dans l'esprit de Bush fils, a germé l'idée, débarrassons-nous de Saddam Hussein. Bon. Et donc l'Irak était envahi depuis le Koweït. Bien. Le régime Bashir s'était renversé, un nouveau régime a été institué, se voulant démocratique. La démocratie, bon, comment dirais-je, s'est enlisée, si je puis dire. Mais l'Irak est devenu fédéral. Et les Kurdes ont arraché l'autonomie.
Bien. Et un Irak où les chiites sont majoritaires, il faut le souligner.
Exactement, voilà. Les Américains ont oublié que dans des pays où il n'y a pas de cohésion nationale, démocratie rime avec démographie. Autrement dit, la majorité, le pouvoir échoit à la majorité, à la communauté majoritaire. Alors, en l'occurrence, les chiites. Évidemment que vu d'Iran, ce pouvait être une aubaine. À la place du Baas irakien, qui était panarabiste, il y aurait des chiites. Il y aurait des frères chiites. Voilà. Alors, c'était le grand imbroglio. En guise de démocratie fédérale irakienne, on a eu, je dirais, un Irak plus chiite que démocratique. Fédéral, certes. Les Kurdes ont leur autonomie. Hein. Mais, quelque part, dominent les chiites. Et donc l'Irak est déchiré depuis 2003 et jusqu'à nos jours, il est déchiré entre plusieurs influences, l'influence iranienne, qui est forte, l'influence américaine...
Oui, puisqu'une des grandes villes, une des villes saintes du chiisme est en Irak.
Bien sûr, c'est Najaf et Karbala, bien sûr. Voilà. Et donc voilà, donc, c'était le deuxième front. Il y a eu un front afghan pendant 20 ans, puis un front irakien pendant de 2003 à 2019. Alors Al-Qaïda s'est implanté chez les sunnites irakiens, minorisé, infériorisé, discriminé. Bon, il s'est implanté là, implanté dans les tribus arabo-sunnites, etc. Bien. Al-Qaïda, donc, disais-je, a été créé l'État islamique en Mésopotamie, n'est-ce pas ? Ensuite, en 2012, la Syrie a sombré dans la guerre civile. C'était l'époque des fameux printemps arabes qui avaient emporté la Tunisie de Ben Ali, l'Égypte de Moubarak, Libye de Kadhafi et puis la Syrie de Bachar el-Assad. Bon. Donc on a eu un imbroglio autour de 2012, Syrie-Irak, des guerres civiles internationalisées à répétition, n'est-ce pas ? Et finalement, bon, il y a eu une pause. En 2019, Al-Qaïda, d'une part, s'était métamorphosé en Daesh, d'autre part. Bon, c'était très compliqué. Hein.
Mais oui, mais vous...
État islamique.
Notons quand même que Daesh, ou l'État islamique, proclame le califat en juin 2014. Et donc une partie de l'Irak et une partie de la Syrie. Donc là, on est dans, quand même, puisque vous évoquiez la longue histoire, au-delà des crimes de l'État islamique, c'est aussi la question de l'islamisme, de l'universalisme musulman versus des États musulmans qui sont devenus réellement des États. Donc là, il y a aussi une opposition peut-être quasi théologique.
Ça a été tout à fait, c'était l'apothéose, si je puis dire. L'État islamique en Mésopotamie au Levant s'est mu en califat en État islamique tout court, juin 2014. Alors, c'était, oui, effectivement, cet État, enfin, c'était pas un État vu de...
Non, mais peut-être est-ce dans votre ouvrage que, grosso modo, en termes vraiment de contrôle, parce que vous expliquez qu'un État, ça suppose une stabilité, ça n'était pas le cas, mais qu'on peut penser qu'à ce moment-là, à la proclamation du califat, 100 000 km² et à peu près 10 millions d'habitants sont sous, je n'ose pas dire administration, mais contrôle de ces gens Daesh, dont vous rappelez aussi que l'effondrement de l'armée, enfin, et des cadres de l'État irakien avait rapproché des opposants islamistes à Saddam Hussein avec des cadres de son armée, et que la collusion, la convergence des deux, tout ça du fait de l'intervention américaine, avait largement contribué à cette constitution de Daesh, autre forme héritier plus ou moins d'Al-Qaïda, parce que dans le détail, vous évoquez aussi les rivalités entre ces groupes.
Daesh, le califat, c'est une espèce d'apothéose, en ce sens que, ce califat, il n'avait pas seulement une dimension territoriale, locale, il se voulait supranational, supraterritorial.
Oui, c'est pour ça qu'on avait des attentats qui se revendiquaient d'Al-Qaïda, ou plus tard de Daesh, donc une espèce d'universalisme du terrorisme.
Exactement, tout à fait. Oui, c'est un universalisme en ce sens que cet État reposait sur l'allégeance religieuse des musulmans sunnites gagnés au salafisme. Tout musulman sunnite salafiste pouvait prétendre être le sujet de cet État, être protégé par cet État. Et tous les autres, non musulmans, non sunnites, non salafistes, étaient des ennemis.
Oui, dont l'incompréhension vue de France d'une situation où, effectivement, face à Daesh, les opposants issus du monde musulman étaient multiples. Les chiites, les kurdes, et puis les déviances, en tout cas les chapelles issues du chiisme, les azéris, les alawites.
Le chiisme était l'ennemi, et inversement. Et c'est pour ça que l'Iran a participé au combat contre Daesh.
D'où en Syrie, une vision bien compliquée de savoir exactement ce qui se passait en Syrie, avec en plus les interventions américaines, russes et turques.
Oui.
Et vous évoquez aussi le rôle particulier de la Turquie dans ce domaine. La Turquie des frères musulmans jouant un camp contre l'autre.
Bien sûr, parce que vraiment, Erdogan est un frère. L'AKP est un parti frériste. Et c'est d'ailleurs lui qui a accueilli les combattants de l'OLL, l'Organisation de Libération du Levant. Et je rappelle que depuis décembre 2024, c'est eux qui sont au pouvoir en Syrie.
C'est-à-dire que le dirigeant...
c'est un ancien,
le dirigeant, le responsable syrien que le président Macron a rencontré, lui est issu des groupes qui ont été in fine soutenus par la Turquie.
C'est ça, exactement.
Pour abattre ce qui restait du régime de Bachar el-Assad.
Voilà, c'était les adversaires de Bachar el-Assad. Il y avait le régime alaouite baasiste, autrement dit, donc baasiste voulant laïque, panarabiste, alaouite parce qu'en vérité, c'est cette communauté qui tenait le pouvoir. Ce régime-là avait pour grand ami la Russie, autrefois l'URSS, pour grand ami l'Iran, parce que l'Iran se veut la protectrice des hétérodoxes de l'islam, ceux qui ne sont pas sunnites. Et puis, il avait pour ennemis les pétromonarchies du Golfe et puis leurs alliés locaux, dont Al-Qaïda, dont Daesh, qui se sont métamorphosés. Et ensuite, les créatures ont échappé à leurs créateurs. Lorsque les hommes de Daesh ont proclamé le califat, c'est une injure à tous les États du monde musulman. Parce que le califat nie les États.
Oui, mais en fait, les États musulmans... Ils sont un peu les enfants de la modernité occidentale qu'ils réprouvent. Alors que le califat, dont vous nous rappelez qu'il s'est éteint avec l'Empire ottoman, c'est ça, en 1924, on avait 90 ans après, sous des dehors sanglants, mais la reprise de la grande histoire géopolitique de l'islam.
Exactement. C'est la grande idée qui était ressuscitée en quelque sorte, mais cette idée du califat, autrement dit une entité qui domine les pays musulmans. Et non, c'est une injure au concept d'État. L'État se veut également souverain. Donc si vous dites qu'il y a un califat, vous dites qu'il y a un supérieur aux États. Et un État ne peut pas supporter
cela. Mais ces gens du califat étaient soutenus, trouvaient leurs appuis chez qui? Dans les États du Golfe?
Ils trouvaient leurs appuis dans les milieux salafistes gagnés à l'idée califale. Il y a des salafistes qui sont pour le califat, des salafistes qui ne sont pas pour le califat. Des salafistes qui sont pour le djihad, d'autres qui se contentent de la prédication. C'est une nébuleuse très compliquée. Mais en gros, Daesh trouvait, le califat trouvait ses appuis, c'était des appuis transnationaux en quelque sorte, transterritoriaux, c'est des salafistes gagnés à l'idée califale. Et parmi ces salafistes, il pouvait y avoir certains frères musulmans.
Alors justement, puisque vous parlez des frères musulmans et tout à l'heure d'Erdogan, est-ce que dans la vision que Erdogan a du monde turcophone, il y a l'idée d'un retour au califat?
Normalement, non. Puisqu'il y a un État turc qui est créé par Kemal et lui Erdogan est l'héritier. Tous les salafistes...
Oui, mais il n'est pas l'héritier de Kemal au sens héritier du laïcisme absolu de Kemal.
Tout à fait. Effectivement, il est l'héritier en tant que chef de l'État turc créé par Kemal, mais au point idéologique, il est son adversaire absolu. Mais Erdogan aime à se rattacher à l'Empire ottoman, donc au sultanat et au califat. Mais Erdogan ne peut pas faire, comment dirais-je, il ne peut pas ne pas être confronté à cette réalité qu'il y a un État turc qui est doté d'une constitution laïque, qui plus est. Donc, et puis la Turquie est membre de l'OTAN, la Turquie est membre du Conseil de l'Europe. Donc Erdogan, c'est un personnage fascinant, c'est un équilibriste. C'est quelqu'un qui jongle sur un fil au-dessus d'un ravin. C'est tout et son contraire. Mais c'est pas, c'est pas en quelque sorte tout en même temps. C'est à partir d'Erdogan, il a une boussole, l'intérêt national turc, même vu à travers des lunettes religieuses. C'est pour ça que c'est pas un indécis. J'aurais l'air de dire...
Oui, c'est-à-dire qu'il y a un vrai nationalisme turc.
C'est ça. C'est un nationalisme, mais au sens nationalisme religieux. Donc il y a toute la matrice sunnite, il y a la référence aux Ottomans. Il y a aussi, parmi les alliés d'Erdogan, les eurasistes, c'est-à-dire ceux pour qui la matrice turque, c'est pas l'Empire ottoman, c'est la Haute Asie, c'est l'Asie centrale. Vous voyez, et ces hommes-là sont favorables à l'entente avec la Russie.
Oui, en direction de, enfin, de l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, oui, l'Asie centrale.
Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a deux grandes matrices, il y a deux grandes références chez Erdogan et ses amis, c'est le sunnisme, l'Empire ottoman, et puis c'est l'Eurasisme et l'Asie centrale, la Haute Asie.
Ah oui, ce qui explique aussi des prises de position pro-russes d'Ankara ces dernières années, même si c'est jamais complètement affirmé. Mais pour vous, ça c'est quelque chose qui tient à cette vision eurasiste de la Turquie.
Turc, c'est le je ne me souviens plus du nom du parti, mais il y a un parti turc allié à l'AKP qui se veut eurasiste. Et c'est ce parti-là qui peut justifier l'amitié avec Poutine. Cette amitié a des limites. Parce que nous avons chez Erdogan, le principal, c'est l'AKP, c'est le frérisme, c'est le sunnisme, c'est, rappelez-vous, la réislamisation de Sainte-Sophie.
Oui.
Poutine n'a pas apprécié. Hein. Donc, mais voilà, si vous voulez, le gouvernement turc, il a plusieurs fers au feu, il en a trois. Il y a, pourquoi pas, l'eurasisme et l'entente avec la Russie. Il y a le sunnisme, la référence au Empire ottoman. Et puis, il y a quand même la laïcité constitutionnelle, même si elle n'est que formelle. Il y a l'OTAN, il y a le Conseil de l'Europe, et la Turquie est toujours candidate pour adhérer à l'Union européenne.
Oui, effectivement, c'est de l'équilibre de très très haut vol.
Ah, très très haut vol. Il est très fort à Erdogan. Bon, il se calme un petit peu, je pense, en ce moment, mais il a accueilli l'OTAN.
Oui. Alors, comme il nous reste 5 minutes, et j'aurais aimé aussi vous entendre à partir du conflit actuel entre les États-Unis et l'Iran. Est-ce que on va vers un conflit majeur entre chiites et sunnites après que peut-être l'affaire américano-iranienne se soit calmée? En d'autres termes, est-ce que ça va laisser des traces dans le Golfe vis-à-vis des sunnites et vis-à-vis de l'Arabie saoudite?
Alors oui, alors le conflit sunnite-chiite, il est très ancien, il est aussi vieux que l'islam quasiment, premièrement.
Mais est-ce qu'il va être réactivé ou alors éteint ou calmé?
Il s'est réactivé à partir des années 70-80 avec le khoménisme et puis le salafisme. Bon. Et donc, des années 80 à nos jours, il y a des conflits sunnites qui sont quand même très, très sensibles. Et à l'avant-scène, c'est la guerre froide ou le conflit Arabie Saoudite-Iran. Ça, c'est très net. Ce conflit, apparemment, s'était arrêté en 2023 grâce à la médiation chinoise. Ce conflit, il aura duré 20, 30 ou 40 ans. Alors là, depuis 2025, donc nous voyons ce qui se passe, on en reste à un conflit entre États. Bon, Israël, États-Unis, Iran. Les pays, les pétromonarchies arabes à majorité sunnite du Golfe ne bougent pas. Elles sont attaquées par l'Iran, elles ne ripostent pas. Bon. Les chiites ne se soulèvent pas. Au hasard saoudien, au Koweït, en Irak du Sud, il n'y a que le Hezbollah libanais qui a pris les armes. Bon. Même le Hezbollah irakien ne bouge pas trop. Même les Houthis ne bougent pas trop. Bon. Pareil les Hazaras afghans. Bon. Donc apparemment, ça, à mon avis, c'est le gros échec de l'Iran. Mais peut-être que l'Iran n'a pas voulu... l'Iran peut-être garde cela en réserve. Peut-être que si le conflit armé reprend, s'envenime, si jamais les pétromonarchies du Golfe se mettent vraiment avec l'Amérique contre l'Iran, peut-être que l'Iran va réactiver les réseaux chiites, et puis il y aura de grands soulèvements chiites au Proche-Orient, c'est possible. Hein. Mais pour l'instant, ce n'est pas... Enfin, cela ne semble pas le cas... Donc pour l'instant, c'est un conflit entre États, il n'y a pas de dimension accusée transnationale. J'allais dire, ce sont des rapports laïcs, ce n'est pas des rapports religieux qui s'expriment. Iran, Israël, Amérique, il n'y a pas de religieux là-dessous. Encore que si on gratte, Israël, oui, il y a des courants judaïques profonds, l'Amérique protestante, elle existe aussi, l'Iran se veut chiite, bon. Mais sur le devant de la scène... Je vois pas de conflit sunnite-chiite pour l'instant. Mais ça pourrait devenir. Hein. Si ça n'advient pas, alors cela signifie que l'Iran se normalise. Que le guide n'est que le chef de l'État iranien. Et que la prétention à diriger, mobiliser, unifier le chiisme mondial a échoué. Donc là, vous voyez, normalisation. Et donc l'Iran perdrait sa force de frappe révolutionnaire chiite, en quelque sorte.
Eh bien, et à voir, hein. Écoutez, à voir. Je ne peux que vous remercier de nous avoir aidé, nos auditeurs, moi-même, à mieux comprendre les tenants et aboutissants de la vision qu'a l'islam de la paix et de la guerre, soit vis-à-vis de son extérieur ou vis-à-vis de son intérieur. Et puis que au-delà de ça, vous avez aussi présenté les aspects contemporains de cette vision de la paix et de la guerre, avec ses applications dans des parties du monde qui restent éminemment sensibles et où se joue la paix et la guerre pour une large part. Et c'est pour ça que pour moi c'était très important de vous recevoir, David Cumin, parce que à travers ce livre, ces deux tomes hein, qui sont denses, c'est-à-dire qu'il faut les lire crayon à la main et dans une ambiance extrêmement calme et sereine, vous nous avez aidé à comprendre les choses. Souvent je regrette que sur beaucoup de plateaux on soit à l'écume des jours. Eh bien, avec un ouvrage comme le vôtre, on est dans les grandes profondeurs, on est dans les courants qui font de l'histoire, et si on ne se frotte pas à ces courants, eh bien, on a bien du mal à comprendre, on est baladé d'une opinion à une autre, mais en réalité, on n'y comprend pas grand-chose. Alors, vous nous avez aidé à comprendre, et pour ce, je vous remercie très vivement, une fois de plus. À bientôt.
C'était mon devoir, et c'est moi qui vous remercie.
À bientôt, merci. Cher David Cumin.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir. Au revoir.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Défense dirigé par Philippe Nicolardo, émission préenregistrée le 8 juillet 2026, diffusée sur Radio Courtoisie lundi 13 juillet, de midi à 13h30 et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr. et accéder à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61, boulevard Murat 75 016, Paris.